bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, une émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Tania Rachaud. Dans ce podcast, on vous propose en réalité d'analyser, de déconstruire des préjugés, des idées reçues sur les questions européennes. C'est une émission qui est réalisée par Leobardo Arango. On revient avec une série spéciale Green Deal qui est présentée par les étudiantes et aujourd'hui il s'agit de Morgane Battarel, Anaïs Boujan, Safa Aloui et Léa Kayatouran de l'université Paris-Saclay. Dans cet épisode, ces étudiantes vont aborder la thématique des déchets autour de la question du pacte vert et en quoi il s'agit justement d'un enjeu central de ce Green Deal.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Alors aujourd'hui, il n'existe plus un seul lieu sur la planète qui soit exempt de pollution plastique. Et cette pollution s'accélère. Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement, en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite possible, pour que la fin de la pollution plastique soit créatrice de valeur.
Nous venons d'écouter le discours du président de la République Emmanuel Macron du 21 mai 2023 à propos de la pollution plastique.
Les déchets font partie du quotidien de chaque citoyen. Leur réglementation est donc essentielle pour respecter l'environnement.
Saviez-vous que selon une directive européenne de 2008, un objet devient un déchet dès l'instant où vous décidez de vous en débarrasser ? C'est aussi vaste que ça. Et comme chaque citoyen en produit tous les jours, c'est devenu un enjeu énorme pour éviter les décharges sauvages et l'invasion du plastique.
C'est là que le pacte vert entre en scène. Cet immense plan d'action établit des règles strictes pour gérer les 220 millions de tonnes de déchets produits chaque année en Europe. On veut des produits plus durables et moins d'emballages inutiles. Pour les entreprises, le but est de créer un vrai marché du recyclage. Demain, vos batteries, vos voitures ou vos emballages devront obligatoirement intégrer des matériaux recyclés. Il sera même question de simplifier les poubelles de tri partout en Europe pour que ce soit plus facile pour nous, les citoyens.
Sur le papier, le cadre juridique est très ambitieux et veut faire de l'Europe un modèle mondial. Mais en réalité, on se heurte à des obstacles énormes, manque de moyens, usines fragiles et habitudes difficiles à changer.
Alors, le pacte vert est-il une véritable révolution pour nos poubelles ou un simple catalogue de bonnes intentions difficile à appliquer ?
C'est toute l'ambiguïté de notre sujet aujourd'hui. D'un côté, on a des lois très ambitieuses qui veulent faire de l'Europe un modèle mondial. Mais de l'autre, on se heurte à des obstacles de taille qui rendent ces objectifs très difficiles à atteindre sur le terrain.
Imaginez une situation très simple. Vous achetez un téléphone ou un grille-pain et 2 ans plus tard, l'objet tombe en panne. Vous pensez le faire réparer, mais la réparation coûte presque aussi cher qu'un neuf. Alors on le remplace. L'ancien finit dans un tiroir ou à la poubelle. Pendant longtemps, notre économie a fonctionné comme ça. On produit, on consomme et on jette. C'est ce qu'on appelle une économie dite linéaire. Le problème, c'est que ce modèle produit énormément de déchets et consomme beaucoup de ressources naturelles. Avec le pacte vert pour l'Europe, aussi appelé Green Deal, l'Union européenne veut changer ce système et encourager une économie davantage circulaire. Des produits qui durent plus longtemps, qui peuvent être réparés, réutilisés ou recyclés. Pour guider les États, l'Union européenne a posé un cadre commun dès 2008 avec une directive. C'est un cadre, donc les États membres ont une marge de manœuvre dans leur choix. L'idée est simple, quand on parle de déchets, il existe un ordre de priorité. D'abord, éviter d'en produire, tout simplement. Et si ce n'est pas possible, on essaie alors de réutiliser les objets, par exemple en les réparant ou en les donnant. Ensuite vient le recyclage, qui permet de transformer les déchets en nouvelles matières. Et seulement, en dernier recours, on élimine les déchets en les incinérant, par exemple. Ces orientations européennes doivent ensuite être appliquées dans chaque pays. En France, l'un des textes les plus importants est la loi adoptée en 2020 contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, souvent appelée loi AGEC. Cette loi a introduit plusieurs changements concrets dans notre vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous achetez aujourd'hui un smartphone ou un ordinateur, vous pouvez voir une note sur 10 appelée indice de réparabilité. Cette note indique sur l'appareil s'il sera facile ou difficile à réparer. Et l'objectif est d'éviter d'acheter des produits conçus pour être rapidement remplacés. La loi agit aussi sur les déchets alimentaires. Depuis 2024, les particuliers doivent réellement trier leurs restes de cuisine, comme les épluchures de légumes, afin qu'ils puissent être transformés en compost ou en biogaz. Elle concerne aussi les entreprises. Pendant longtemps, certaines marques détruisaient leurs invendus, notamment dans le secteur du textile. Maintenant, elles doivent privilégier d'autres solutions comme le don à des associations, la réutilisation ou le recyclage. On retrouve aussi cette logique pour le gaspillage alimentaire. Et oui, notre pays est le premier, grâce au combat d'associations, à obliger tous les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à donner leurs aliments invendus aux plus démunis. La loi renforce aussi ce qu'on appelle la responsabilité des producteurs. Donc concrètement, cela veut dire que les entreprises doivent participer à la gestion des déchets des produits qu'elles mettent en vente sur le marché. Donc, par exemple, lorsque vous rapportez un vieux lave-linge en déchetterie, une partie du coût du recyclage est financée par les fabricants et les distributeurs. Mais ces politiques font aussi l'objet de critiques. Plusieurs analystes, notamment certains de nos députés, estiment que la loi mise encore beaucoup sur le recyclage alors que la priorité devrait être plutôt de réduire la production de déchets dès le départ, par exemple en limitant certains emballages. C'est le premier objectif du Green Deal tout de même, dans son ordre de priorité. D'autres critiques concernent justement la responsabilité des entreprises. Elle finance davantage le recyclage, mais elle garde aussi une influence importante dans les filières de gestion des déchets, ce qui peut freiner le développement d'alternatives comme la réparation ou le réemploi. Bref, ces politiques avancent, mais la vraie transition écologique se fera seulement si les entreprises et les citoyens changent leurs habitudes ensemble au final. Donc au-delà de ces mesures très concrètes dans notre quotidien, la question des déchets joue aussi un rôle beaucoup plus large au niveau international.
La thématique des déchets devient centrale dans le Pacte vert, également parce qu'elle permet à l'Union européenne de respecter ses engagements environnementaux. Le protocole de Kyoto, dont l'UE fait partie, a proposé une logique d'objectifs de réduction d'émissions pour les pays industrialisés, tandis que l'accord de Paris organise l'action par un traité combiné à un mécanisme de contribution déterminé au niveau national. Dans ce cadre, le Pacte vert est présenté par les institutions européennes comme la stratégie de transformation interne permettant d'atteindre la neutralité climatique et plus largement d'aligner production et consommation sur les objectifs environnementaux. Ainsi, les déchets ont un impact direct sur le climat et donc les engagements de l'UE. Le traitement et l'élimination des déchets, notamment les décharges, émettent du méthane, un gaz à effet de serre qui piège efficacement la chaleur à court terme. L'Agence européenne pour l'environnement rappelle que le méthane est un levier important pour l'action climatique immédiate, notamment pour les secteurs des déchets. Concrètement, cette logique se matérialise par des objectifs et restrictions qui visent à réduire la mise en décharge et les émissions associées. Par exemple, il y a des restrictions sur la mise en décharge de déchets valorisables. En résumé, moins de déchets signifie moins de méthane, ce qui renforce la capacité de l'UE à tenir ses trajectoires d'émissions et à défendre une position de bon élève dans le cadre de ses engagements internationaux. Enfin, le Pacte vert inscrit l'UE dans une diplomatie environnementale qui va au-delà du seul climat. Les déchets et la pollution plastique sont aujourd'hui traités dans un cadre multilatéral. Les États négocient donc un accord destiné à prévenir la pollution et à organiser la gestion des plastiques. Cela s'explique d'abord par le fait que les déchets sont devenus un enjeu géopolitique majeur, touchant à la justice environnementale et au commerce mondial. Effectivement, qui traite les déchets? Où et selon quelles normes? L'UE cherche à éviter ici les situations d'exportation de pollution. La politique européenne encadre les transferts transfrontaliers afin de superviser et contrôler les flux, en soulignant que des mouvements non contrôlés peuvent avoir des conséquences environnementales graves. Ce contrôle se renforce avec le nouveau cadre sur les transferts de déchets qui met l'accent sur des règles plus strictes et une meilleure traçabilité, notamment concernant les exportations vers les États tiers. Au-delà du pacte vert, la Convention de Bâle est un instrument clé sur les mouvements transfrontaliers. Au-delà du pacte vert, la Convention de Bâle est un instrument clé sur les mouvements transfrontaliers de déchets. Cela montre que l'Union européenne durcit ses règles domestiques pour être en ligne avec l'esprit des normes internationales et pour limiter les effets de dumping environnemental. De cette façon, l'UE peut s'appuyer sur les politiques Green Deal comme argument d'autorité. Le plan d'économie circulaire est présenté comme un des blocs majeurs du pacte vert et couvre tout le cycle de vie des produits avec l'objectif explicite de prévenir les déchets et de maintenir les ressources dans l'économie le plus longtemps possible. Cette dimension internationale est donc assumée dans la communication dite « dimension externe du Green Deal » qui met en avant le leadership européen dans le monde. Il est donc possible de soutenir que les déchets sont un enjeu central du Pacte vert dans la mesure où ils constituent un levier concret pour tenir les engagements climatiques internationaux de l'UE et un champ dans lequel elle cherche à structurer la gouvernance mondiale en convertissant une stratégie interne en influence externe. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke right out. Life. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Said his name, Bojangles, then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15. How his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, vous venez d'écouter Mr. Bojangles de Nina Simone.
Si le Pacte vert fixe des objectifs ambitieux, l'Union européenne peine encore à gérer concrètement ses déchets en matière de recyclage et de gaspillage. Une révision de ce modèle semble aujourd'hui nécessaire.
Le gaspillage, c'est le fait de jeter ou de perdre des ressources, comme de la nourriture ou des objets, qui auraient encore pu être consommés ou utilisés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'Office statistique de l'Union européenne, Eurostat, l'Union européenne a généré 58 millions de tonnes de nourriture gaspillées en 2023. Et le plus frappant, plus de la moitié de ce gâchis, précisément 53%, vient directement de nos poubelles domestiques à la maison. Au départ, le pacte vert visait une réduction de gaspillage de 50% d'ici 2030, mais en 2024, les ministres de l'Environnement dans le cadre du Conseil de l'Union européenne ont revu ses ambitions à la baisse. Le compromis actuel est bien plus timide. Réduction de seulement 10% du gaspillage dans les usines agroalimentaires et réduction de seulement 30% du gaspillage dans les magasins, les restaurants et des ménages. Cette frilosité s'explique notamment par la grande hétérogénéité des quantités de déchets produits par les États membres de l'Union européenne. La France produisait 129 kg de déchets alimentaires par habitant et par an. Chypre en produisait 397, tandis que la Slovénie en produisait 68, par exemple. Dans un rapport publié le 31 mars 2025, l'Agence européenne pour l'environnement tire la sonnette d'alarme en estimant que la lutte contre le gaspillage n'est pas assez liée aux enjeux du climat. La recommandation est simple. Au lieu de simplement recycler les déchets, il faut d'abord redistribuer les invendus aux personnes dans le besoin ou les transformer en nourriture pour animaux. Alors, quel serait donc le réajustement nécessaire à réaliser en matière de gaspillage ?
Les déchets ont besoin d'un réajustement impératif du pacte vert sur le gaspillage alimentaire. Et des normes récentes favorisent déjà ce changement. Une directive contribue à réduire les déchets, à atténuer les dommages environnementaux et à renforcer la sécurité et la résilience économique de l'Union européenne. Pour rendre ces mesures effectives, les États membres devront sensibiliser la population pour permettre un changement durable des pratiques. En moins d'un an, les États membres doivent avoir transposé ces mesures et en 2 ans et demi, ils devront mettre en place des systèmes de responsabilité élargie des producteurs pour les vêtements. Avant ça, la coordination doit être effectuée par une autorité compétente, désignée par les États membres, pour prévenir la production des déchets alimentaires avant le 17 janvier 2026 et adapter le programme de prévention aux mesures nécessaires avant le 17 octobre 2027. Les mécanismes de financement, l'importance de la transparence pour s'assurer que les chiffres ne sont pas manipulés par les États membres et la cohérence entre la mesure et son impact réel sont des enjeux centraux permettant de tester les limites des normes. Par exemple, l'utilisation de subventions et d'incitations financières reste pour l'instant limitée. Il faudrait aussi plus de mesures fondées sur des preuves. Le progrès nécessite donc une meilleure compréhension de l'efficacité des actions de prévention et d'un suivi. C'est pour ça que la directive a fixé 2 objectifs contraignants de réduction des déchets alimentaires devant être atteints par les États membres d'ici à 2030. La réduction de 10% du gaspillage alimentaire dans la transformation et la fabrication et la réduction de 30% par habitant au niveau de la vente au détail et des consommateurs. En plus, les stratégies de prévention des déchets devraient être mieux intégrées dans les politiques et les mesures climatiques et biodiversité, puisque réduire le gaspillage alimentaire peut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les terres, l'eau et les matériaux utilisés dans la production alimentaire. L'environnement devrait être un problème de premier plan dans la réflexion d'une politique. Une autre question majeure se pose concernant le pacte vert. Pourquoi l'Union européenne est-elle à la traîne en matière de recyclage ? Mais d'abord, qu'est-ce que le recyclage ? C'est le procédé qui consiste à récupérer un déchet pour le transformer en une nouvelle matière première prête à être réutilisée.
Dès 2023, la Commission européenne tirait la sonnette d'alarme. Dans un rapport du 8 juin, 18 États, comme la Grèce ou la Pologne, risquaient de n'atteindre aucun des 2 objectifs, à savoir le recyclage de 55% des déchets municipaux et le recyclage de 65% des déchets d'emballage à l'horizon 2025. Prenons l'exemple de la France. En 2023, on ne recyclait seulement qu'environ 25% de nos emballages plastiques. Le 26 novembre 2025, un autre rapport signale que seulement 9 États sont sur la bonne voie pour les atteindre. Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Slovénie. Alors pourquoi tant de pays restent-ils en retard ? La Cour des comptes européenne pointe plusieurs obstacles. Par exemple, les usines de recyclage du plastique sont précaires et comme la demande est faible, certaines menacent même de fermer. Encore, les matières recyclées ne se vendent pas assez cher, donc les entreprises ne sont pas motivées à investir ou à les utiliser dans leurs produits. Enfin, les États restent trop dépendants de la mise en décharge en raison de contraintes financières et des faiblesses de leurs plans, alors que la législation européenne a clairement donné la priorité à la prévention, à la réutilisation et au recyclage des déchets. Alors, quel serait donc le réajustement nécessaire à réaliser en matière de gestion des déchets ?
Pour la gestion des déchets, l'Union européenne tente de mettre en place de nouveaux instruments et de trouver des solutions pour réajuster le pacte vert. Pour remédier aux retards et dépassements de coûts des projets de gestion des déchets cofinancés par l'Union européenne, la Cour des comptes recommande d'évaluer la faisabilité d'une harmonisation des taxes sur les décharges et l'incinération dans l'ensemble de l'Union européenne. Aussi, lorsqu'il s'agit plutôt d'un problème de mauvaise foi des États membres n'ayant fait que peu ou pas de progrès, la Commission européenne a lentement engagé des procédures d'infraction. D'ailleurs, les déchets sont mieux recyclés que par le passé. 48% de la quantité totale des déchets municipaux générés dans l'Union européenne a été recyclée, contre 37,2% en 2013. Finalement, une réglementation complète et effective, accompagnée d'une importante campagne de prévention, permet de réduire la production de déchets, tout comme leur élimination. Mais si les consommateurs commencent à être plus vigilants, faut-il encore que les politiques nationales transposent correctement les normes ?
Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était donc une émission spéciale Green Deal avec les étudiantes du Master 1 Droit International et Européen de l'Université Paris-Saclay, Morgane Battarel, Anaïs Boujan, Safa Aloui et Léa Kayatourane. Rendez-vous aux prochains épisodes. En attendant, vous nous retrouvez sur le site d'Amicus Radio, le site de l'Observatoire du Green Deal pour ces épisodes. Et puis, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux.